Écho du silence.
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 Bienvenue sur l'écho du silence, le podcast qui met en lumière les communautés invisibilisées du territoire breton. Cette émission est dédiée à la communauté queer. Aujourd'hui, nous allons écouter l'histoire de Laurane, une des membres fondatrices de l'association Le Cairn 29, un collectif de santé pour la communauté LGBTQI. Elle va nous parler de sa structure ainsi que de son parcours à elle.
Je suis Laurane, je travaille au Cairn 29 en tant que bénévole, comme les autres personnes, et donc le Cairn 29 qui est un collectif de personnes LGBTQI pour la santé LGBTQI sur le territoire de Morlaix. Et donc, plus exactement, le pays de Morlaix, puisqu'on a un grand territoire. Et jusqu'à peu, on intervenait aussi sur le territoire de Lannion. Et, mais maintenant qu'il y a Maëse à Lannion, qu'on est très contente de voir arriver, c'est un collectif de personnes LGBTQI, queer, qui gère différents événements sur Lannion. Et qui font du soutien aussi aux personnes LGBTQI. Au départ, on était 8 à créer un collectif qui s'appelait LGBTQI Morlaix. Et on était tous issus de la mouvance transpédéguine de Bretagne. On venait de différents collectifs queer à travers toute la Bretagne. Plus exactement autour de Guingamp, Morlaix, les Monts d'Arrée. Et donc voilà, et qu'on s'était rendu compte qu'il y avait un besoin d'assistance. Pendant 8 mois, on est resté un collectif, et puis on est devenu une association, parce qu'on s'est rendu compte que ce qui se passait, c'est que les pouvoirs publics n'ont pas le droit de travailler avec des collectifs, parce que ce sont des collectifs, et du coup, ça posait des problèmes pour filer des aides, pour dans tout le travail de fond que faisaient les collectifs, comme les hébergements d'urgence, l'assistance médicale et tout ça. Donc nous, on a décidé de devenir une association pour pouvoir faire le relais entre les pouvoirs publics et ces collectifs. Et donc voilà ce qu'on a fait pendant 3 ans. 8 mois de collectif, 2 ans, 2 ans d'association. Puis on est redevenu un collectif du fait qu'on s'est rendu compte qu'au final... au vu de ce qui se passait politiquement en France et en Europe, on s'est dit « Oups, il y a quand même des dangers qui se présentent à nous » et qu'on ne voulait pas être une association avec une liste d'adhérents au cas où les pouvoirs politiques passaient à l'extrême droite, qu'on soit obligé de donner les listes de nos adhérents. On n'a pas d'adhérents au Cairn. Les gens qui veulent participer, participent. Ceux qui ne veulent pas participer, participent pas. Il y a des bénévoles et tout le monde est avec des avatars ou des pseudos, donc il n'y a pas d'identité et on ne prend des personnes qu'on accompagne, on ne prend pas les noms réels, on accompagne avec que sur des pseudos et on ne tient aucun document écrit. Voilà, comme ça, bah, si un jour on vient nous réclamer de liste, il n'y a pas de liste. Quand on a fondé l'association et que la communauté de communes nous a demandé de chiffrer nos engagements en termes d'heures et de coûts, on était à plus de 80 000 euros, dont la moitié sur les déplacements. Donc voilà, et on intervenait au-delà quand il fallait être plusieurs associations ou collectifs. On se regroupait pour pouvoir intervenir à plusieurs quand c'était nécessaire. Avant nous, c'était des personnes très disparates sur ce territoire-là, qui avaient des besoins, mais qui se sentaient complètement isolées et qui ne savaient pas où s'adresser. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, grâce au Cairn 29, Morlaix est la seule ville à avoir une équipe médicale qui est prête à accueillir les personnes trans. Alors bien sûr, pas de chirurgiens, mais on a des médecins, des infirmières, des kinés, et un cabinet de dermatologie qui travaille avec nous. Et on est les seuls à avoir ça en Bretagne-Nord, entre Brest et Rennes. Il faut savoir que les bénévoles ont fait du porte-à-porte pendant 2 ans, et on s'est pris quelques portes dans la figure, et qu'il faut leur tirer, faut les féliciter pour ça, parce qu'ils ont fourni un boulot de ouf, pour qu'on puisse monter ça. On peut accompagner les personnels LGBTQI, puisqu'on a formé, on a pu discuter avec les personnes et les sensibiliser aux questions LGBTQI et à la manière d'accueillir et d'accompagner les personnes LGBTQI en termes de soins, et donc de respecter les identités de genre et de respecter les identités et les orientations sexuelles, de telle façon à protéger aussi bien les personnes LGBTQI qui iraient consulter les personnes, les professionnels de santé vers qui on envoie, que les professionnels de santé eux-mêmes, puisqu'on a entendu, alors ça ce n'est pas arrivé à Morlaix, en tout cas encore, mais on a entendu des groupuscules d'extrême droite qui ont été embêtés, des médecins, voire des personnes qui attendaient les personnes trans ou les personnes racisées LGBTQI devant les cabinets de médecins pour les embêter. Et donc nous, on fait en sorte que ça ne se passe pas ici. On est différentes personnes. Il y a des personnes trans, il y a des personnes lesbiennes, il y a des personnes gays, il y a des personnes non-binaires. Moi, principalement, je m'occupe des personnes en affirmation de genre, donc qui sont soit en questionnement, soit ont déjà un projet. Et je m'occupe de la médiation individuelle, ce que nous appelons la médiation individuelle ou la médiation familiale, c'est-à-dire l'accompagnement de manière individuelle ou familiale, parce qu'on sait aujourd'hui à travers les chiffres qu'on a au niveau national que quand on arrive à maintenir le lien familial, ça se passe beaucoup mieux pour les personnes individuelles. Et donc on va voir quand, à la demande bien sûr des personnes individuelles et des familles, il faut qu'il y ait un accord tripartite pour qu'on intervienne, on va discuter avec les familles. Et généralement, on essaye de leur faire comprendre et de leur faire réaliser que déjà, ce n'est pas un deuil de la personne qu'ils font, mais un deuil des projections qu'ils ont sur leur enfant. Et donc, ce n'est pas du tout la même chose et ça permet de relativiser, puisque la personne ne va pas changer de personnalité. Et bien, aimer les mêmes choses et pleurer sur les mêmes choses. Et la deuxième chose, c'est que de leur faire comprendre qu'ils ont le droit de ne pas être d'accord, mais que ce n'est pas leur projet, c'est le projet de leur enfant et de la personne. Et donc c'est là principalement, je raccourcis beaucoup, mais on prend le temps, hein, bien entendu, d'amener ces sujets-là comme ça. Donc voilà, ça se passe en plusieurs discussions, plusieurs interventions, généralement d'une heure et demie. Et que quand on voit que c'est trop tendu, on n'hésite pas à arrêter et de dire bon, on revient quand vous voulez et on vous reçoit individuellement ou en groupe si vous estimez avoir le besoin. Et on se rend compte que bien souvent, accompagner les familles, c'est surtout faire abaisser les peurs de la réaction de l'entourage direct ou indirect. Bien souvent, ce qu'ils ont peur, c'est: qu'est-ce qu'on va faire subir à notre enfant à cause de son orientation sexuelle, amoureuse ou de son genre? Et en accompagnement, ben, on a pour principe d'accompagner la personne sur son projet ou son questionnement. Nous, on n'impose jamais de reprendre rendez-vous avec nous. C'est à la personne de se prendre en charge et de dire, si elle a besoin de nous revoir, de reprendre rendez-vous avec nous. Et nous, on interviendra, on va se débrouiller pour trouver un créneau et une salle pour pouvoir la recevoir quand on peut. Donc voilà. Et les autres personnes agissent de la même façon, mais sur d'autres thématiques. En fait, sur les thématiques, elles connaissent le mieux, sachant qu'on s'interdit, si on peut, bien sûr, on fera le relais, mais on s'est interdit de prendre la parole des lesbiennes ou des gays ou des homos, qu'on s'est interdit de prendre la parole des non-binaires. Moi, j'interviens surtout sur les personnes qui sont en affirmation de genre, c'est-à-dire des personnes transgenres, des personnes non-binaires et des personnes intersexes, où on fait des accompagnements, où on va défendre leurs droits quand il y a des blocages. Que ce soit au niveau administratif ou au niveau santé. Ça nous est arrivé d'intervenir pour une personne originaire de Morlaix qui est rendue à Rennes et qui avait un suivi médical sur Rennes qui était très problématique. Et voilà, on ne donnera pas le nom, bien entendu, de l'hôpital parce qu'on ne peut pas le faire parce qu'il y a des choses qui sont en cours. Mais nous avons gagné la première bataille d'avoir réussi à faire reconnaître les torts de l'équipe médicale au niveau de l'hôpital en faisant intervenir différentes personnes. Et maintenant, on est dans la tentative de faire prendre en charge ce qui aurait dû être pris en charge dès le départ à leur charge, puisque c'est eux qui ont reconnu leur tort. C'est un combat de longue haleine. Il a fallu plus d'un an pour obtenir la première partie. Et c'est une personne seule, dont je ne vais taire son nom de bénévole, qui a été toute seule contre une organisation d'État et qui a réussi à obtenir ça. Et moi, je vous avoue que je tire mon chapeau à cette meuf.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence. Laurane fait partie des fondatrices du Cairn 29 dans le but d'aider, de défendre et de soutenir les personnes LGBTQI. Les exemples qu'elle vous a confiés sont une preuve que le combat est loin d'être terminé. Elle va vous parler à présent de son parcours avant la création du Cairn 29.
Alors, moi, j'ai été dans différentes associations pendant près de 10 ans, ou avant, voilà, où je me suis formé. Et donc, quand je suis arrivé ici, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien, qu'il semblait y avoir un besoin qu'on sentait sous-jacent, mais qu'on n'avait aucune idée de comment il allait venir à nous. Et du coup, on a fait « Allez, on y va ». On perd pas de temps, LGBTQI Morlaix, ego, et on voit ce qui se passe. Quoi. Et c'est à partir de ça qu'on s'est rendu compte que oui, il y avait bien un besoin, mais qu'il n'était pas forcément comme on le croyait. Et du coup, ça a été très intéressant parce qu'on a vu des personnes LGBTQI de ma génération, voire plus vieux, qui sont arrivées, et en même temps des jeunes qui sont arrivés. Et qu'il a été assez... Ça frottait sur les termes, sur les temporalités. Et qu'il a fallu trouver les endroits où, pour faire commun. Sachant qu'on a toujours été OK pour dire on peut faire des temps de groupe. Par exemple, pour juste les personnes trans, lesbiennes, à partir du moment où ils refont groupe, à un moment donné, c'est-à-dire il ne s'agit pas de dévoiler quoi que ce soit de particulier de ce qui a pu être dit, mais de permettre à des gens d'appréhender en fait des discriminations ou des vécus qui normalement on ne voit pas. Ce qui pour moi-même m'a permis aussi de comprendre certaines problématiques de personnes lesbiennes, par exemple, que je n'avais pas, que je ne voyais pas. Et donc pour le coup, ça a été très intéressant. Après, avec le Cairn, on a choisi de ne plus faire de groupe de parole parce qu'on trouvait que c'était trop conflictuel entre les anciennes générations et les nouvelles générations, que ça nous demandait beaucoup trop d'énergie et qu'on a décidé de se recentrer sur la santé et l'accompagnement des personnes LGBTQI et de se battre pour ces droits-là, sachant qu'on a pour politique de se battre sur les besoins globaux, parce que si on s'occupe des besoins globaux, la santé s'améliore, et de faire comprendre ça aux différentes administrations. Donc on a participé pendant près de 2 ans au niveau de la Comco à essayer d'interpeller la Comco sur les différentes discussions qu'ils avaient au niveau de l'enfance. Donc on a intervenu au niveau de l'éducation, au niveau de la santé, et au niveau de la justice. Donc voilà, où on a carrément, par exemple, interpellé le JAF, qui nous expliquait quel était son travail, et donc on lui a dit « Ok, très bien, c'est très intéressant, mais qu'est-ce que vous faites quand vous avez affaire à un mineur LGBTQI ?» Et du coup, on a soulevé une problématique qui ne leur plaisait pas. Alors le JAF, le nom exact, je ne me rappelle plus, c'est la justice au niveau des affaires familiales. Donc ils s'occupent de tout ce qui est mineur et des problématiques, soit familiales, soit dès qu'il y a des enfants qui sont en jeu. Sachant que n'étant pas ou peu formé sur les questions LGBTQI, il peut arriver que du coup, si une personne subit des discriminations ou du harcèlement à l'école, ou au niveau familial, parce qu'elle est LGBTQI, et ben eux avaient tendance à en parler aux parents. Et on a essayé de leur faire comprendre qu'ils créaient un double front pour le mineur, parce que bah, bien souvent, il était pris entre les gens qui le discriminent, qui le harcèlent, et les parents qui pouvaient ne pas forcément être OK avec cette question-là, et que l'enfant n'avait pas forcément parlé de ça à ses parents. Et on était bien au courant de la question. Pourquoi ? Parce que bah, 6 mois avant, on a été écouter des personnes adultes qui étaient passées par le JAF quand ils étaient enfants. Et on les a écoutées pendant 2 heures. Puis au bout de 2 heures, on leur a demandé si on pouvait poser des questions. Ils nous ont dit oui, et on leur a dit on aimerait bien savoir comment ça se passe pour les personnes LGBTQI mineures sur ces questions-là. Et ils nous ont à peu près à 99% répondu ben, on se tait, en fait. On n'en parle pas, parce que autrement, c'est la double peine. Et donc, nous, ben, notre travail, c'est de porter ça devant les pouvoirs publics et de leur dire, comprenez ça, et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer cette situation pour que ça ne se reproduise plus, au moins sur le territoire de Morlaix. On ne dit pas qu'on va réussir à éliminer toutes les discriminations, mais si on arrive à les abaisser, c'est déjà pas
c'est
mal.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
La raison pour laquelle moi je fais de l'accompagnement, bah il a fallu que j'aille la chercher très loin en moi, et que, au vu de la société que je vois qui est en train de s'installer, me rappelle fâcheusement ce que moi j'ai vécu en ayant entre 10 et 20 ans, et que on a bien morflé, et que je ne veux pas, et je suis contre le fait qu'ils vous fassent revivre ça. Voilà, et que je me battrai bec et ongle pour empêcher qu'ils vous fassent vivre ça. Donc, voilà. Elle n'est pas belle, mais au moins, elle a le mérite d'être honnête.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
On connaît désormais la raison qui a poussé Laurane à créer l'association. Du coup, on lui a demandé si, depuis la création de sa structure, elle a su répondre à des attentes qu'elle avait avant de se lancer.
À mon sens, bah, j'ai montré qu'à Morlaix, il était tout à fait possible de parler de questions LGBTQI, de les mettre sur le terrain social, sur le terrain public, sur le terrain politique, qu'il y avait des interlocuteurs en face qui étaient tout à fait prêts à travailler avec nous sur ces questions-là. Puisqu'on a eu 2 réunions avec la mairie pour travailler sur les discriminations administratives qui ont été entendues, qui nous ont dit qu'ils étaient tout à fait prêts à nous aider et à nous faciliter les contacts pour qu'on puisse intervenir, puisqu'il y a des contacts qui sont plus difficiles que d'autres à avoir, sachant que nous, on est un collectif et pas une association, et que du coup, ça peut poser des problèmes à certaines personnes. Mais ce qui nous permet aussi d'obtenir une liberté de parole et une liberté de positionnement. Et donc, par exemple, quand on intervient dans les écoles, on va intervenir et on va co-construire avec la direction de l'école, les élèves de l'école qui nous ont demandé qu'on intervienne sur les questions de discrimination. On va co-construire avec eux notre intervention, en fait. Mais ça ne veut pas dire qu'on va passer sous silence certaines choses qui pourraient déranger certaines personnes. Et là-dessus, on est très clair. On est là pour parler de ce que les élèves ont besoin. Et on a de cesse de rappeler que quand on nous dit « oui, mais le collège, c'est trop tôt pour intervenir sur cette question-là », on a de cesse de leur rappeler que les chiffres nous montrent que 43% des agressions LGBT-phobes ont lieu dans les collèges. C'est donc qu'ils en parlent mal, et que donc faut aller les nourrir sur ces questions-là, leur dire ce que c'est, comment on peut agir, comment on ne peut pas agir, et qu'est-ce que la loi aussi. Et que bien souvent, ce qu'on voit, c'est que les élèves qui discriminent, quand on commence à leur parler de la loi, se rendent pas compte que bien souvent, ils peuvent tomber, même au collège, sous le coup de la loi, mais que c'est leurs parents qui vont payer. Notre but, ce n'est pas de leur faire peur, c'est de leur donner tous les outils pour réfléchir chacun à sa posture. Et on intervient de la même façon avec les adultes. Donc c'est aussi ça, c'est ne pas enlever l'intelligence aux mineurs, à leur propre intelligence, d'être en capacité de réfléchir sur la propre problématique qu'ils traversent. On s'interdit d'infantiliser les plus jeunes. Il y a encore beaucoup de blocages avec les adultes, même si les choses se sont améliorées. Aujourd'hui, il y avait commencé à avoir une meilleure acceptation des personnes LGBTQI au niveau de vos générations déjà. C'est presque même plus une question. Ça reste une question dans nos générations et que c'est là où sont les blocages et que bien souvent, on a tendance à dire que quand on vient dans les écoles, c'est pas tant les élèves qu'on devrait former que les adultes et qu'on a des témoignages qui nous sont rapportés parce que forcément, on travaille avec des différentes assos au niveau départemental, au niveau régional et au niveau national, et qu'on entend des témoignages que d'autres associations ont reçus, et que oui, il y a des discriminations entre les élèves, mais il y a aussi encore des discriminations venant des équipes pédagogiques, ou, et ce qu'on oublie le plus souvent, des équipes encadrantes, administrative, et que on voit en tout cas nous sur le territoire des discriminations à différents niveaux, au niveau qu'on appelle des discriminations administratives, et que c'est aussi pour ça qu'on se dit ok, il y a moins de violences physiques comme nous on a pu connaître dans notre génération, même si on dit attention, c'est pas gagné. On le voit actuellement avec les politiques actuelles. Les droits LGBTQI peuvent reculer très vite. C'est plus ou moins en cours. On voit des choses passer. On voit des trucs qui ont été autorisés plus ou moins par le gouvernement. Des trucs que la police fait, comme le fichage de personnes trans. On l'a partagé sur nos réseaux sociaux pour rappeler justement aux gens qui nous suivent. Attention, voilà ce que c'est qu'une discrimination, voilà où est le danger pour les personnes trans, et c'est pour ça qu'on est là. Il y a des choses qui changent, mais en même temps, on essaye de rappeler quand même aux personnes qu'on croise, et c'est pour ça qu'on est content de vous voir arriver, de venir vers nous, et de vous dire, ok, on est ok avec le changement, on n'a pas de problème avec ça, mais faites attention, parce que vos droits sont encore très fragiles, et ne vous laissez pas faire, parce qu'il se passe des choses aujourd'hui qu'on voit se passer, qui sont de plus en plus dangereuses, même en France.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Suite à ce conseil avisé, on a demandé à Lorane ce dont elle était le plus fière.
D'avoir monté le cairn aussi vite, d'avoir eu la confiance des bénévoles, parce que principalement, comme je vous ai dit, comme moi j'ai 10 ans dans le milieu associatif, bah, j'ai accepté d'être la porte-parole, parce que comme je dis, je suis déjà cramé par l'extrême droite, donc autant que les autres ne le soient pas et ne soient pas devant et puissent se protéger, ce qui nous a permis justement du coup de travailler assez facilement avec les professionnels de santé, les différentes administrations, parce que du coup, personne ne les connaît, sauf les personnes concernées au niveau politique. Le nombre de personnes accompagnées, la confiance qu'ils m'ont donnée, tout ce qu'ils m'ont appris, parce que chaque accompagnement est différent, et ils m'ont permis d'affiner à chaque fois ma posture. Ils m'ont énormément appris. Et ils m'ont énormément apporté. La première personne que j'ai accompagnée à Morlaix sur les questions de transidentité, je l'ai vue évoluer. Je l'ai vue venir vers moi en disant « J'ai reçu ma première injection » et qui était, voilà, qui m'a touché et qui, il n'y a pas longtemps, m'a envoyé un message pour me dire « Voilà, je suis avec mon copain et bientôt, on va être papa. » on a décidé de faire un enfant ensemble et on voudrait que tu nous aides pour tout ce qui est administratif. Et j'étais waouh! Et moi je me dis, finir sur cette note-là, c'est trop chouette. Ça, c'est vraiment, j'ai des petits bijoux pour moi. Comme je dis, C'est chaque moment qui m'ont fait vivre, c'est une perle rajoutée à mon collier et que personne ne pourra m'enlever.
C'est l'écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Écho du silence.
Pour finir cet épisode, Laurane nous a fait un dernier point sur ce qu'il y a à retenir de ce récit.
Notre collectif fonctionne principalement, donc comme je vous ai dit, on a le statut de bénévole chez nous et le statut de sympathisant. Le statut de bénévole, c'est ceux qui vont s'occuper de la santé LGBTQI sur trois niveaux, qui sont les accompagnements, ce qu'on appelle la médiation individuelle et familiale, la médiation sociale et politique, donc c'est d'aller conseiller les différentes organisations et collectivités territoriales, et la médiation scientifique. Et les sympathisants, ce sont ceux qui entourent le CAIRN et qui interagissent avec nous de manière très ponctuelle. Un point de vue qu'on a aussi au sein du CAIRN, c'est qu'on ne valide jamais la personne qu'on a en entretien. À savoir que même si elle le demande, pour des raisons tout simplement... c'est que comme on est formé, on sait qu'il peut y avoir des fois, parce que la personne a peur, parce qu'elle est en souffrance, elle peut nous demander, mais est-ce que je suis réellement trans ou est-ce que je suis réellement lesbienne? Et ça, nous, on ne dira jamais ça, parce que c'est à la personne de s'auto-déterminer et pas à nous de le faire. C'est son projet, pas le nôtre. Je trouve ça très très beau aussi de voir votre génération, pour qui ce n'est plus la question du genre, la question de l'orientation sexuelle est beaucoup moins une problématique. Et ça, je trouve ça trop chouette. Et je trouve ça tellement dommage qu'il y ait des adultes qui sont en fait ceux-là même qui créent la discrimination. Parce que c'est pareil dans l'école. Nous, on se bat pour essayer de faire comprendre ça aux adultes, que les enfants ne font que reproduire ce qu'ils voient du monde des adultes, agissent de cette façon-là et reproduisent les violences que leurs parents font ou vivent. Je pense que si les adultes se formaient eux-mêmes à toutes ces questions-là, ils se rendraient peut-être compte de ce qu'ils font vivre à leurs enfants et aux autres personnes. Venez, on a besoin de vous pour défendre des personnes qui voudraient faire du mal à d'autres personnes. Et c'est pas OK. On n'a pas le droit de discriminer une personne à cause de sa religion, de sa couleur de peau, de son genre, de ses choix vestimentaires, de tout ça. Ça n'existe pas. De la même façon, faire croire qu'un homme, ça porte un pantalon, j'aimerais bien qu'on me le prouve au niveau mondial, 80% des hommes portent ce qu'on pourrait apparenter à une jupe ou à une robe. Et j'invite les Français à essayer, ils verraient peut-être que c'est confortable. De la même façon qu'il n'y a aucun mal à vouloir essayer d'être comment ça pourrait être un homme ou comment ça pourrait être une femme. Il n'y a aucun mal à essayer ça. Et je pense que la société française s'en porterait beaucoup mieux, parce qu'on ne va parler que de nous, parce qu'on ne sait pas comment sont les autres, et que la société s'en parlerait tellement mieux si les personnes se donnaient le droit d'essayer ça. Ils se rendraient peut-être compte un peu mieux des discriminations que chaque genre fait peser sur l'autre. Ayez confiance en vous, défendez vos droits, défendez votre société, celle que vous avez envie, avec qui vous avez envie de vivre et comment vous avez envie de vivre. Et vous laissez pas raconter n'importe quoi sur ce qui a pu être. Parce que prétendre que les personnes transgenres, c'est une mode, non, on existe depuis la nuit des temps. Prétendre que nous serions là pour remplacer les femmes cis, j'ai envie de vous dire, bah, vu qu'on existe depuis que l'humanité existe, que vous ne trouvez pas que notre stratégie de femmes trans, elle est un peu foireuse quand même, parce qu'on ne vous a pas beaucoup remplacé hein, depuis ces milliers d'années. Et que, petite note d'humour satirique, non, on ne va pas dans les toilettes des femmes pour aller voir les culottes des femmes. Si ça se trouve, on a des culottes bien plus belles.
C'est l'écho du silence. Écho du silence.
C'est la fin de cette émission sur le CAN 29. Merci à Laurane de nous avoir partagé son parcours et son savoir. Vous pouvez contacter le CAN 29 à l'adresse mail lecan29@gmail.com ou sur son site web le-cairn-espace-lgbtqi.com et retrouver tous les épisodes du podcast sur le site de Radio U et sur toutes les plateformes de streaming. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés. C'était l'écho du silence.